carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour. Depuis 150 années, nous assistons à la résurrection du clavecin. D'abord, la résurgence de la pratique de l'instrument, la redécouverte de son répertoire ancien. Et depuis 80 ans, les compositeurs se sont intéressés de nouveau au clavecin. C'est Manuel de Falla qui écrit un concerto pour clavecin et cinq instruments en 1926. Poulenc qui compose un concerto champêtre l'année suivante. Puis suivent bon nombre de compositeurs, citons parmi tant d'autres Ligeti, Oana, Xenakis, Schnittke et vous, évidemment, François-Bernard Mach. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des Beaux-Arts, chef de file du courant que l'on nomme naturaliste et vous avez écrit plusieurs œuvres pour clavecin, on en compte 7 au total. Nous allons les écouter au cours de cette émission et même entendre 2 compositions qui sont inédite. Mais avant d'écouter votre œuvre, commençons par une sorte de mise en bouche avec le concerto pour clavecin de Falla, Manuel de Falla qui fut le précurseur en quelque sorte en termes de composition pour clavecin. Vous nous direz ensuite comment vous, François-Bernard Mach, vous avez découvert le clavecin. François Couperin, qui a beaucoup écrit pour le clavecin, dit en 1717 « Le clavecin, dans son espèce, un brillant, une netteté qu'on ne trouve guère dans les autres instruments, il est parfait quant à son étendue par lui-même. Cet instrument a ses propriétés comme le violon a les siennes. Si le clavecin n'enfle point les sons, si les battements redoublés sur une même note ne lui conviennent pas extrêmement, il a d'autres avantages qui sont la précision, la netteté, le brillant et l'étendue. François-Bernard Mach, est-ce que ce sont les mêmes raisons qui poussent un compositeur du XVIIIe siècle et du XXIe siècle que vous êtes à écrire pour le clavecin ?
En partie oui, pour l'étendue par exemple, et c'est d'ailleurs dans ce domaine que le clavecin du XXe et du XXIe siècle a encore amélioré les performances, si j'ose dire, puisque c'est généralisé le jeu de 16 pieds qui était rare au XVIIIe siècle. Mais pour d'autres qualités du clavecin, les critères sont différents. En ce qui me concerne, c'est la violence du clavecin grâce à l'amplification qui est un de ses mérites importants. Et ça, évidemment, l'esprit du XVIIIe siècle mettait rarement l'accent sur cette qualité. Quoique, il y ait tout de même des pièces, des tambourins, où on l'utilise comme instrument de percussion, et qu'il y ait des pièces violentes aussi au XVIIIe siècle.
François-Bernard Mach, comment est-ce que vous avez été amené à vous intéresser au clavecin ? Comment s'est faite la rencontre ?
Si je me reporte à mon passé lointain, c'est dans les années de guerre, dans les années 40 où j'étais enfant, que près de mes parents qui étaient musiciens tous les deux, régnait une claviériste, à la fois pianiste et claveciniste. C'était à Montluçon dans les années 40. Et donc, j'ai eu ce contact précoce avec le clavecin qui, à l'époque, pour moi, ne correspondait à aucune image particulière. Et puis, lorsque j'ai commencé à composer, le clavecin a refait surface. Moi, j'étais un peu pianiste. J'ai composé en 1953 une toccata pour clavecin, d'esprit assez néoclassique, que je ne me garderai bien de faire entendre en public, mais qui montre cet intérêt précoce. Et ensuite, quand je suis entré au groupe de recherche musicale que venait de créer Pierre Schaeffer, j'ai demandé à faire des enregistrements de clavecin. Et dans une pièce de 1960 qui s'appelle Volume, j'ai utilisé sous forme de mixage plus de 10 clavecins simultanés.
Est-ce que vous en jouez, vous ?
Non, je n'oserais pas dire que j'en joue. J'en joue comme peut en jouer un pianiste, c'est-à-dire très mal. D'autant que lorsque je me suis initié au clavecin, c'était avec l'instrument même qu'avait utilisé Wanda Landowska. C'était un clavecin très particulier, ressemblant un peu à un piano. Et avec des pédales dont le jeu était le contraire des clavecins actuels. C'est-à-dire que il fallait enlever les pédales pour mettre un jeu. Donc, il aurait mieux valu que je n'ai pas cette première expérience. Ceci dit, je connais l'instrument et, suffisamment pour pouvoir écrire et les registrations moi-même.
Wanda Landowska, qui est la fameuse claveciniste polonaise qui a fait redécouvrir le clavecin au début
voilà,
du XXe siècle.
Le concerto de Falla que nous entendions a été composé sur sa suggestion et c'est une très grande réussite de Manuel de Falla.
Une des rencontres décisives, peut-on dire, pour vous pousser aussi, peut-être pour vous inspirer à écrire pour le clavecin, c'est celle de la claveciniste Elisabeth Chojnacka.
Et en effet, c'est en 1968, à l'occasion de l'agitation du mois de mai, que j'ai rencontré dans ces interminables assemblées de musiciens une jeune personne qui n'était pas connue à l'époque, qui n'avait jamais fait de concert à Paris. Et moi-même, j'avais été invité en Pologne 2 ans avant à composer une œuvre au studio expérimental de Varsovie. Donc, je m'intéressais à la Pologne et j'aimais la Pologne. Donc, nous sommes entrés en relation. J'ai tout de suite réussi à prononcer son nom un peu compliqué. Et elle m'a dit, ah bon, Chojnacka, vous êtes un des rares Français qui le disent correctement. Et je lui ai dit que j'avais déjà écrit autrefois une petite pièce de clavecin, donc il y a eu un intérêt réciproque. Et comme peu de temps après, j'ai de façon éphémère dirigé la programmation du Centre culturel américain, je lui ai procuré un premier récital, qui est le premier récital qu'elle ait donné à Paris.
Voilà donc une sorte d'introduction à vos compositions pour le clavecin. Alors pourquoi le clavecin et quelle utilisation précise faites-vous de cet instrument ? Ces questions vont revenir tout au long dans cet entretien. Écoutons pour commencer votre première œuvre pour clavecin et bande magnétique, Corvard, qui a justement été écrite à l'intention d'Elisabeth Reinetzka. Voici un premier extrait de Corvard. Alors précisons d'emblée que l'oiseau que nous venons d'entendre est un chama que vous avez enregistré en Malaisie.
L'oiseau vient de Malaisie, mais je l'avais chez moi en cage. Et j'ai choisi parmi ces nombreux chants quelques passages que je trouvais particulièrement remarquables.
Alors à quoi ressemble une telle partition ?
Alors c'est une œuvre qui ne ressemble à aucune autre dans la mesure où j'ai juxtaposé un instrument très connoté historiquement, avec des sons qui n'ont absolument jamais été en contact avec cet instrument. Ce qui m'intéressait, c'était justement de montrer qu'au-delà du rôle historique du clavecin, il avait un potentiel d'énergie, de violence, qui allait très bien avec certains signaux animaux, comme celui qu'on vient d'entendre, ou avec d'autres traits, notamment d'une langue d'Afrique du Sud qui comporte des clics, qui est le Xhosa. Et cette langue, je crée des ambiguïtés avec l'oiseau qui fait des claquements de bec, lui aussi. Donc, je voulais montrer qu'entre les sonorités les plus brutes et les sonorités les plus élaborées, il y avait un passage graduel possible.
Mais là, on ne peut pas dire que le chant de l'oiseau soit violent.
Ah, moi je l'entends comme ça. Je l'entends violent parce que il a une grande véhémence rythmique et il est souligné par le clavecin. Il a été entièrement transcrit. Il figure sur une portée pour la partition et la claveciniste se synchronise avec lui. Et pour moi, il est porteur de violence. C'est pas un oiseau gentil du tout. D'ailleurs, les oiseaux ne sont pas spécialement gentils.
Une des caractéristiques de l'œuvre, et je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans plusieurs de vos œuvres, c'est l'utilisation du clavecin évidemment comme percussion. Je crois même que vous utilisez les pédales même comme instrument de percussion où on tape avec ses pieds.
En effet, dans Corvard, il y a un passage préludant à un enregistrement de pluie où il y a des chocs sur les pédales. Il y a des enregistrements de baleines, il y a des enregistrements de guanaco, il y a un cochon en rut. En fait, c'est une œuvre extrêmement mal élevée.
Écoutons justement un second extrait de Corvard. C'était donc ici le fameux cochon en rut et puis des baleines, c'est ça ?
Et ensuite des baleines, oui. Je m'étais procuré cet enregistrement qui était un des premiers réalisés à l'époque par le professeur Poulter en Californie.
Alors François-Bernard Mache, vous dites en 1972, l'année où est créé Corvard à Bourges, la chose suivante. La crudité des voix animales est volontairement soulignée car il m'est apparu que plus le réalisme est extrême, plus on est proche du fantastique.
Oui, c'est un aspect, enfin c'est un pari que j'avais fait à l'époque. J'ai dû écrire ça dans un article que j'avais intitulé « Un clavecin aux zoos » pour montrer le côté un peu incongru de cette association. Et oui, en effet, je crois que c'était un peu dans l'esprit du surréalisme, pour lequel j'avais surtout à l'époque beaucoup d'admiration, créer un sentiment de fantastique, non pas à partir de monstres non identifiables, mais à partir d'un contexte inédit.
Alors, je me posais à la première écoute de ces œuvres la question de savoir qui tient le rang de soliste, qui répond à qui, est-ce que c'est le clavecin, l'animal, est-ce que les deux se répondent? Et puis j'ai trouvé ce commentaire toujours dans le même article, vous dites que Corvard est un essai de réponse au dilemme nature-culture. C'est ça, que le rôle du clavecin n'est ni de s'opposer ou s'enregistrer, ni de les commenter, mais d'être plaqué sur eux en quelque sorte.
Oui, c'est comment, ça. Comment ça se fait? D'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai appelé cette œuvre Corvard, c'est que comme dans les Corvards de Nouvelle-Guinée, qui sont des reliquaires, des crânes humains transformés en sculpture par différents artifices, il y a cette espèce d'imbrication entre l'objet brut enregistré et l'écriture du clavecin, de sorte qu'à certains moments, on ne sait plus très bien si les sons de la nature enregistrés ne sont pas une présence instrumentale et réciproquement, si le clavecin n'est pas une sorte d'animal brutiste. Mais après cette longue ambiguïté, à la fin de l'œuvre, le clavecin prend sa revanche en s'affirmant dans toute sa puissance d'instrument et donc en assumant éventuellement ses traditions culturelles, mais sans aucun pastiche.
Alors on écoute justement ce dernier extrait de Corvard.
The big
Alors ici, on entend bien la violence du clavecin dont vous parliez un peu plus tôt, François-Bernard Mache.
Voilà, j'ai voulu réaliser le paradoxe d'un grand crescendo qui part d'une espèce de petit son timide d'insecte au milieu de la pluie pour aboutir à quelque chose d'énorme et de percussif.
Alors, ce qui m'a frappé dans ce que vous disiez un peu plus tôt, vous parliez de la charge héréditaire, la charge historique du clavecin. Est-ce que ça veut dire que c'est autant pour la sonorité du clavecin que pour sa charge héréditaire, ses connotations historiques que vous choisissez cet instrument? Est-ce que un clavecin n'est jamais débarrassé de son histoire, en quelque
sorte? Si, en l'occurrence, je crois que cette pièce tournait définitivement la page. D'abord la page du néo-sérialisme des années 60, et puis, plus généralement, justement, l'image historique attachée à l'instrument de salon qui lui avait valu, de la part des révolutionnaires, une disparition rapide. Si le clavecin a pu renaître dans les années 1880 à peu près, c'est parce que, dans un premier temps, on éprouvait la nostalgie du XVIIIe siècle, et puis il a eu une deuxième renaissance dans la deuxième moitié du XXe siècle, et qui cette fois, je crois, n'a plus considéré en général sa position historique.
Alors quittons Corvard, et partons pour Solstice, une œuvre pour clavecin moderne et orgue positif, une œuvre écrite en 1975.
Thank you.
Alors François Bernard Mage, précisons ce qu'est un clavecin moderne. Si je ne me trompe pas, vous m'arrêtez, hein. Si c'est le cas, c'est un clavecin qui bénéficie des améliorations, en quelque sorte, qui avait transformé le pianoforte en piano romantique que l'on connaît aujourd'hui, en piano moderne. C'est-à-dire une caisse plus massive, un cadre métallique, des cordes qui sont sous tension, sous une tension plus forte, et d'autres améliorations un peu techniques.
Oui, je ne parlerai pas d'amélioration, je parlerai de changement, parce que le clavecin moderne, c'est aussi la renaissance des copies de clavecins anciens. Mais il y a finalement une divergence à partir d'une souche historique commune. Il y a deux lignées qui se sont établies, l'une largement dominante aujourd'hui, qui est la lignée baroque, qui sert à jouer la musique ancienne, et puis une autre très minoritaire, mais pour moi plus intéressante, parce qu'elle correspond à mon époque, qui est le clavecin systématiquement muni de deux claviers, d'un registre de 16 pieds, de jeu de luth au moins d'un 8 pieds luth, etc. Expérience qui existait anciennement. J'ai vu à Édimbourg, au musée instrumental, un clavecin du XVIIe siècle qui a déjà trois claviers et de nombreux jeux. Mais en général, la nouvelle facture de clavecin met l'accent sur la qualité du timbre et non pas sur la diversité des timbres.
Alors on dit aussi que le rendement sonore de ce clavecin moderne est moins probant que celui du clavecin du XVIIIe siècle.
Que
le rendement sonore, Claire.
De toute façon, le clavecin d'aujourd'hui est presque toujours employé avec une amplification, donc il est assez difficile de comparer. Moi, je pense que l'amplification fait partie du timbre du clavecin moderne. Si elle est bien conduite, elle doit être discrète et passer comme une chose qui va de soi. Mais je pense que insister trop sur les problèmes instrumentaux est une erreur et que il y a longtemps eu une querelle entre les partisans des copies d'anciens et des instruments modernes. Je crois que cette querelle n'a aucune raison d'être, puisque les instruments modernes correspondent à une fidélité historique, simplement à l'écriture moderne, et que les instruments copies d'anciens partent du même critère pour interpréter Bach ou Scarlatti.
Mais outre l'amplification, il y a quand même un choix d'un son différent dans le clavecin moderne. Le son est...
Oui, mais par l'écriture, pas seulement par le choix de l'instrument. Il y a d'ailleurs, même dans les partitions contemporaines, il y en a quelques-unes qui n'exigent pas telle et telle registration. En particulier, lorsque le compositeur n'est pas familier avec l'instrument, il s'en remet à l'interprète. Et à ce moment-là, rien ne l'interdit de jouer sur un instrument limité aux possibilités des copies d'anciens.
Alors ici, le clavecin accompagne un orgue positif.
Oui, un orgue positif, c'est un orgue qu'on peut poser quelque part après l'avoir transporté. C'est un orgue relativement mobile et donc qui est grand comme, je dirais, un peu plus grand qu'un harmonium tout de même, mais grand comme un piano droit un peu plus étoffé. Et c'est un instrument qui a l'avantage d'avoir des tuyaux qui donnent une attaque incisive comme un coup de langue. Et cette netteté d'articulation se retrouve assez rarement sur les grandes orgues. Donc ça m'avait conduit à utiliser l'instrument parce que Elisabeth Reinatzka venait de créer avec un excellent organiste qui était Xavier Darras un duo qui se proposait de susciter un répertoire pour cette association un peu insolite. Et le duo a commencé à fonctionner et malheureusement un accident tragique a fait perdre un bras à Xavier Darras. Et par conséquent, évidemment, sa carrière a été complètement bouleversée. Il est devenu compositeur et professeur et enseignant, mais on n'a jamais retrouvé cette association idéale. Et ces deux instruments maintenant, enfin le Solstice vit grâce à un enregistrement que j'ai fait sur bande magnétique ou sur CD et qui accompagne le jeu en direct du clavecin.
Alors vous parlez d'association inédite et d'association idéale. C'est un drôle de mariage.
Oui, j'ai dit idéal, c'est peut-être un lapsus dangereux. Non, c'est pas idéal, mais disons que les deux timbres ont quelque chose de coloré, de solaire, et c'est un peu pour ça que j'ai parlé de solstice dans cette œuvre. Le solstice, c'est le moment où le soleil cesse de monter pour redescendre, ou cesse de descendre pour remonter. par rapport à l'horizon, c'est le moment où il semble s'immobiliser. Et donc, c'est une œuvre qui recherchait à la fois un timbre lumineux et un usage d'une dimension musicale essentielle qui commençait à refaire surface en 1975, qui était la répétition. Seulement, la différence avec ce qu'on a appelé les musiques répétitives américaines, c'est que les cycles ne coïncident jamais et qu'on ne trouve jamais deux passages entièrement identiques. La main gauche joue un certain nombre d'un certain cycle, la main droite joue un autre nombre d'un autre cycle, ce qui évidemment est très difficile pour l'interprète. Et j'ai exploité une possibilité inédite du clavecin, qui était que les touches se bloquent lorsque les deux claviers jouent au même moment la même note. Les deux sautereaux se bloquent. Et donc, on crée à l'intérieur d'un continuum rythmique un silence ou une valeur longue au milieu des valeurs brèves. Ça donne ce côté dansant de la rythmique. C'est un peu analogue à ce que Ligeti a fait quelques années après dans son étude sur les touches bloquées, où on joue des notes que l'on n'entend pas, mais de façon à assurer la régularité du rythme.
Alors, dans ce tableau de solstice, quel rôle ou quelle couleur a le clavecin ?
Ça, c'est difficile de l'exprimer par des mots. Souvent, il est à l'unisson avec l'orgue. Et je crois que ça ne fait que renforcer. Le clavecin donne une attaque et l'orgue donne une rondeur. Les deux, pour moi, donnent un timbre intéressant.
Alors, écoutons à présent Anaphore, qui est cette fois-ci pour clavecin moderne, et percussion. Cette fois, le clavecin joue parmi les instruments de percussion. Le clavecin, un instrument de percussion à part entière, une sonorité percutante.
Oui, c'est un peu ça. Dans ce passage extrait d'Anaphore, on assiste à un échange des rôles. Au début, le jeu de luth du clavecin se combine avec le vibraphone. Et après, c'est le clavecin qui devient un instrument de percussion, accompagné mélodiquement par des petits gongs taille posés à plat.
Et j'ai l'impression, d'ailleurs, au début cette anaphore, que le jeu du clavecin se rapproche de celui d'une guitare. Il y a quelque chose de...
C'est la propriété du jeu de luth qui étouffe un peu la résonance, qui donne un timbre mat très caractéristique.
Et puis vers la fin, on sent que vous jouez vraiment avec la sécheresse des notes, avec ces accords qui sont percutants, qui sont brefs. Du coup, on en perd presque la perception harmonique.
Tout à fait. Oui. Ce sont des clusters épais où, en effet, on n'entend plus que le timbre pur du clavecin sans variation de hauteur identifiable.
Alors écoutons à présent Guntur Madhu, qui est une œuvre pour clavecin seul, qui a été écrite en 1990.
Thank you.
François-Bernard Mache, c'est la première fois que vous utilisez un clavecin seul, sans bande magnétique, sans instrument associé. C'est donc que le clavecin peut être un orchestre à lui tout seul, notamment grâce au registre du clavecin. Comment est-ce que vous avez abordé
ça? Oui, c'est bien vu. J'aime beaucoup votre définition. Le clavecin est une... peut donner l'impression d'un petit orchestre à lui tout seul, dans la mesure où les différents registres suggèrent presque des instruments différents par moment. Guntur Madu a un nom indonésien et il se réfère donc à une expérience déjà ancienne. Lorsque j'ai écrit, en 1972, l'année où je composais Korvar, j'avais fait un grand voyage en Asie du Sud-Est qui m'a mené... Sumatra, Bornéo, Java, Bali, Thaïlande, etc. Et j'avais entendu un gamelan à Yogyakarta qui s'appelle Guntur Madu, c'est-à-dire un torrent de miel. Chaque ensemble gamelan a son propre nom et son propre accord aussi. Et ce torrent de miel m'avait beaucoup frappé parce que c'est à la fois un ensemble d'instruments violents et en même temps doux. Et alors j'ai repris ce titre parce que je fais appel une fois de plus à une possibilité qui pour moi est inhérente au clavecin, qui est celle d'articuler un flot de notes très rapide et en même temps de véhiculer un timbre chatoyant et plaisant. Donc c'est à la fois violent et brillant. Et l'œuvre est conçue comme ce que les Indiens appellent raga malika, c'est-à-dire une guirlande raga. Ça consiste à parcourir des échelles et des ragas différents. Et effectivement, c'est une œuvre, je dirais, polymodale, où il y a beaucoup de couleurs modales successives, ce qui pour moi était nouveau, puisque j'avais fait une musique essentiellement atonale, à quelques exceptions près.
Et quatre ans plus tard, en 1994, vous écrivez cette fois Summum, en quelque sorte, de la reconnaissance instrumentale pour le clavecin. C'est du moins comme ça qu'en général, on exerce une typologie, on classe typologiquement les œuvres. Un concerto pour clavecin, amplifié et orchestre. Alors, on parlait un peu plus tôt de l'amplification du clavecin. C'est la première fois que cette amplification est précisée.
Elle est indispensable, comme dans la plupart d'ailleurs de mes œuvres de clavecin, même soliste, elle est indispensable parce que même si j'utilise seulement un petit orchestre par deux, un orchestre Mozart comme on dit, le timbre du clavecin nécessite une amplification pour ne pas être noyé dans certains passages. Braise, c'est une commande de la radio polonaise. Et ça a d'ailleurs été créé par l'orchestre de Katowice et dirigé par le Polonais Anthony Witt. Ce qui m'intéressait dans cette œuvre, c'était le passage d'une rythmique totalement libre, un peu comme dans les sons de la nature, et c'est le début de l'œuvre et un peu dans cet esprit, jusqu'à une rigueur répétitive de plus en plus contraignante, jusqu'à un ostinato. Donc... voilà quelque chose que j'ai essayé de réaliser dans cette œuvre. Et aussi des changements de couleurs en utilisant l'orchestre comme autant de solistes, pour ainsi dire, ou autant de timbres très différents. C'est de la musique de chambre à la dimension orchestrale.
Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour écrire pour clavecin et orchestre, pour équilibrer ces différentes sonorités, mis à part l'amplification? Est-ce qu'il y a une façon, une écriture particulière?
C'est ce qu'on appelle le métier, c'est-à-dire qu'à la longue, après plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années, on finit par avoir une prémonition exacte de ce qui va se passer en fonction de l'écriture et des instruments. Ce n'est pas une science exacte, c'est une science purement empirique.
Et là, en l'occurrence, vous avez dû écarter certains instruments de l'orchestre ou rajouter d'autres?
Non, pas du tout. J'ai même utilisé des instruments de percussion qui jouent fortissimo en même temps que le clavecin. C'est par l'écriture que l'un n'écrase pas l'autre, mais que ça peut se renforcer.
Alors, nous écoutons un extrait de ce concerto qui s'intitule « Braise ». Thank you. Nous écoutions donc un extrait du concerto Braise avec Elisabeth Roynatska au clavecin, accompagnée de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Pascal Roffet. Et là, le clavecin se fond de nouveau dans une idée de feu, de Braise. Un clavecin qui fait essentiellement des figures rythmiques. Et j'ai noté qu'on peut s'amuser à faire des parallèles entre le vocabulaire du feu, comme le crépitement, et puis un vocabulaire qui se prête particulièrement bien au clavecin, je trouve.
Mais oui, c'est une pure métaphore. Je n'ai pas décrit des braises ni utilisé des sons de braises, mais c'est parce que c'est un instrument assez crépitant, comme les braises. Et ce qui m'intéressait, c'était de faire une œuvre qui donne à l'auditeur envie de danser.
Alors, une danse qui...
Une danse sur le feu.
Une danse sur le feu. Quand on parle de danse, en général, il y a quand même une assise rythmique régulière qui permet la danse.
Ah, ben voilà. Mais effectivement, on atteint à la fin à cette régularité, mais on n'y est pas d'emblée, parce que je trouve que c'est la régularité est très ennuyeuse, d'une manière générale. Donc, il y a rythme lorsqu'il y a rupture, lorsqu'il y a irrégularité, mais aussi lorsqu'il y a des points d'appui successifs.
Est-ce que vous pensez à une danse en particulier que vous avez rencontrée ou observée au cours de vos voyages ?
Non. Mais si un chorégraphe s'empare de Braise, ça peut donner des résultats intéressants.
Quel registre du clavecin est-ce que vous avez utilisé dans cette œuvre-là ?
Tous, selon les passages, l'un ou l'autre.
Pour finir, nous allons écouter deux œuvres qui, elles, sont inédites. Elles sont pour autant enregistrées. Est-ce que ça veut dire qu'elles vont être publiées bientôt ?
La première, justement, Ziggurat, n'est pas enregistrée. Ce qu'on va entendre, c'est une maquette, c'est-à-dire quelque chose qui est un petit peu une épure et à certains égards aussi une caricature de l'œuvre. Non, parce qu'elle a été créée par Elisabeth Roynatska, mais l'enregistrement n'est pas disponible. Et donc, je suis contenté de la maquette où je la simule sur ordinateur et ça donne une idée de l'œuvre, mais ça n'est pas l'œuvre elle-même.
Donc nous avons la chance d'écouter en avant-première cette Ziggurat. Nous écoutions donc un extrait de Ziggurat, une œuvre pour clavecin seul. Le titre de cette œuvre a une connotation mythologique.
Le titre fait penser évidemment à la Mésopotamie, qui est une région qui d'ailleurs a donné naissance aussi à d'autres œuvres comme Kengir. Mais en même temps, c'est une série de jeux de mots. La naissance de cette œuvre, naissance lointaine, c'est un enregistrement de cuatro, une petite guitare vénézuélienne qui m'avait frappé par sa richesse rythmique et dont j'ai tiré ensuite une œuvre pour guitare qui s'appelle Ugarit. Alors Ugarit, c'est une ville que j'avais visitée à ce moment-là sur la côte syrienne et c'est la ville où a été trouvé le plus ancien alphabet au monde connu. Et pourquoi Ugarit? Parce que c'est l'anagramme de guitare, tout simplement. Et alors après, comme j'ai fait dériver encore deux autres œuvres de cette première impression de quatre vénézuéliens, ben je me suis dit comment appeler ça. Alors on va reprendre une espèce d'anagramme d'Ugarit et c'est de plus en plus déformé, c'est devenu Ziggurat. Et la dernière œuvre, j'ai abandonné les anagrammes, c'est une œuvre pour piano, elle qui s'appelle Medusa. Donc Ziggurat, c'est une étiquette plutôt qu'un titre ayant à voir vraiment avec le contenu de l'œuvre.
D'accord, et la référence à ces monuments de Mésopotamie est assez lointaine alors.
Non, mais en même temps, un titre doit ne pas décrire l'œuvre, mais faire rêver autour, alors pourquoi pas.
Rêver autour, justement, de Ziggurat. Et là, c'est une œuvre de nouveau pour clavecin seul, et on entend là très précisément hein, tous les ces registres sur lesquels vous jouez, ces harmoniques riches.
Oui, parce que la simulation que j'ai faite et qu'on vient d'entendre part d'un échantillonnage rigoureux des différents jeux du clavecin, donc c'est une maquette, mais assez réaliste d'une certaine manière.
Et pour finir, nous allons écouter votre dernière œuvre pour clavecin en date. Elle a été écrite en 2003. C'est une composition assez étonnante, assez différente de ce que vous avez écrit pour l'instant pour le clavecin. Nous l'écoutons tout de suite. C'était donc un extrait de la Terza Pratica, j'espère que je prononce bien, une œuvre dans laquelle vous revenez à des inspirations tonales.
Plus que cela, c'est une œuvre d'après Monteverdi qui a été écrite comme un interlude à l'occasion d'une journée Monteverdi-Mach, dont j'avais choisi le thème parce que c'est un des plus grands compositeurs de tous les temps pour moi. Jusqu'ici, cette admiration ne s'était jamais manifestée dans l'écriture, mais là, bon, j'ai voulu affronter une chose dont j'ai normalement horreur, qui est la référence à des confrères du passé.
Au corpus.
Je n'avais jamais fait ça, donc comme j'ai un tempérament d'explorateur, ça m'intéressait pour faire le contraire de ce que j'avais fait jusqu'alors. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est reprendre un des plus beaux passages des madrigaux de Monteverdi, « Così suol una cara fonte viva », et de pousser les audaces harmoniques de Monteverdi au-delà de son époque et donc de faire en quelque sorte, non pas une caricature, car je le fais avec respect, mais de faire une déformation expressive de cet extraordinaire madrigal.
Comment fait-on justement pour aller sur les pas de Monteverdi, pour composer pour le clavecin? Comment est-ce qu'on fait même pour composer pour clavecin, pour cette technique d'écriture qui fait que la note est tenue et dès qu'on la lâche, elle la note part?
Ah oui, c'est un paradoxe, parce que je sais tout le contraire des voix qui justement soutiennent la note. Et là, c'est une madrigale où je crois que c'est à 5 voix, et par conséquent, la transcription, même si elle était fidèle note à note, serait déjà une interprétation très loin du modèle. Monteverdi n'a pas, à notre connaissance, écrit pour le clavecin seul. Il utilisait le clavecin dans une fonction d'accompagnement secondaire, comme toujours à son époque. Qu'est-ce qu'il aurait écrit s'il avait écrit pour clavecin? Certainement pas ce que j'ai proposé, mais il aurait certainement donné une simulation d'un son soutenu avec une ornementation proliférante. Je n'ai pas voulu me livrer à cet exercice qui m'aurait ramené à une époque antérieure. Je suis passé directement du début du XVIIe siècle au XXe, ou à la rigueur peut-être à des harmonies romantiques dans certains cas. Mais c'est une expérience marginale dans ma production, et je promets que je ne le ferai plus.
Pour finir, pour conclure, François-Bernard Mache, qu'est-ce que vous pensez de ce que disait Maurice Ohana, qui est un de vos prédécesseurs en composition? Il dit que le clavecin est un instrument d'une cruauté, d'une grandeur fantastique.
Oui, oui. Là, nous étions tout à fait d'accord. Nous parlions justement du concerto de Falla, qui pour lui était un des sommets de la musique. Et effectivement, il y a, en particulier dans ce mouvement lent qu'on entendait au début de l'émission, une grandeur, une austérité. C'est la Semaine Sainte à Séville qui l'a inspiré, et Ohana était agnostique, mais il était profondément sensible à cette dimension de Falla. Alors le clavecin se prête à cela, et ça c'était la découverte de Falla, on ne le savait pas jusque-là.
Merci beaucoup François-Bernard Mache de nous avoir accordé cette interview. Merci pour les œuvres que vous nous avez fait écouter, en particulier les œuvres inédites. Merci infiniment. Je précise que vous allez bientôt publier un enregistrement de l'intégralité de vos œuvres pour clavecin sous les doigts d'Elisabeth Rojnetska. Bonne journée à chacun. Merci.
Merci de votre accueil.